Studio 45 vous présente Giens, sa fabuleuse histoire, une chronique présentée par Michel Issartissier.
Bonsoir à toutes, chères auditrices et auditeurs de Studio 45. Soyez les bienvenus pour cette toute nouvelle chronique de Giens, sa fabuleuse histoire. Et oui, ça fait longtemps. Aujourd'hui, ça sera un sujet qui sera autour d'une personnalité giennoise, ou bien plus que ça aussi, parce que forcément, c'est une personne très reconnue sur le plan national. Et pour nous raconter cela, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés, comme toujours, Michel Issartissier, qui va nous faire part de ses anecdotes autour de ce personnage qui est Paulin Enfer. Salut Michel.
Bonjour, et eh bien bonjour à vous, chers auditeurs de Studio 45. Je vous prie d'excuser ma voix couverte, les changements de temps sont un petit peu néfastes par les temps qui courent.
Et il fait très très chaud en ce moment, au moment où on enregistre.
Pour la rubrique de ce mois, nous allons parler d'un bienfaiteur du peuple, des affamés, des sans-abri, qui a un très grand rapport avec notre ville de Giens. Vous connaissez sans doute la rue qui porte son nom. Peut-être l'empruntez-vous ? Même habitez-vous ? Ou simplement y venez-vous, puisqu'elle abrite la maison des associations
et puis la radio.
Et à l'intérieur des studios de notre radio. Mais oui. Peut-être ignorez-vous les raisons du choix de la ville de Giens de donner son nom à cette rue du quartier de Montbricon.
Pourquoi ?
Eh oui, pourquoi ? Mais qui est donc ce monsieur Paulin Enfer ? Que je vais vous présenter ainsi que ses œuvres. Paulin Enfer est né à Nevers en 1853. Son père est ouvrier tanneur et va très vite s'installer à Paris comme corroyeur. Sa mère, Émilie Le Thor, est giennoise et possède quelques biens dans le quartier de Montbricon. En 1870, à 17 ans, Paulin s'engage dans un bataillon de mobiles et découvrira les horreurs de la guerre, mais aussi et surtout celles du siège de Paris et de sa capitulation. Après l'armistice, il se réfugiera à Giens, dans la propriété de sa mère, et ne rejoindra Paris qu'après le massacre de la Commune. Lors de ses études, chez les frères des écoles chrétiennes, il se découvre une vocation de fervent catholique et se dévoue sans relâche pour tout ce qui est, à Paris, œuvre de charité. Son service militaire terminé, il entre comme employé à la Compagnie des Assurances Générales, où il fera toute sa carrière professionnelle. En 1885, il crée son premier patronage dans le quartier de la Porte d'Italie.
C'est la Porte d'Italie à Paris, du coup.
À Paris, bien sûr, oui, oui. La confrérie de Saint-Vincent de Paul lui apporte son soutien et son patronage est officiellement agréé en 1888 sous le vocable de patronage de Saint-Joseph de la Maison-Blanche. Au sein de ce patronage, il adopte des orphelins et les met en apprentissage. En même temps, il organise le premier vestiaire des pauvres pour fournir des vêtements aux nécessiteux. 1891, ce fut un hiver très dur, et la confrérie Saint-Vincent de Paul a du mal à fournir. Le trésorier se lamente des caisses qui restent désespérément vides. C'est là qu'un des membres exprime une idée. Mais puisque tant de gens ont en ce moment des mie-de-pain à mettre sur le bord d'une fenêtre pour les petits oiseaux, pourquoi n'irions-nous pas leur en demander pour en donner aux pauvres qui n'ont rien à manger ? Ainsi est née l'œuvre de la mie-de-pain. C'était une source populaire. Très vite, les pauvres affluèrent. Pour manger, certes, mais aussi pour aider. Chaque soir, avec les enfants sortant de l'école, ils étaient là pour préparer la soupe, éplucher les légumes, dresser les tables, faire la vaisselle.
Et cette association existe encore toujours aujourd'hui?
Elle existe toujours aujourd'hui, elle a toujours son siège à Paris. Et par les temps qui courent, hélas, elle continue d'être fort utile.
Malheureusement.
C'est ainsi que Gien s'est trouvé concerné. Alors que cette œuvre, qui, comme nous le disions, existe encore à Paris, se développait. Ayant hérité à Gien, dans le hameau de Montbricon, de la petite maison de sa mère, s'y octroyant, grâce à son employeur très compréhensif, les congés payés n'existaient pas à l'époque, deux semaines de congés annuels, il y amenait un petit nombre des enfants passés avec lui quelques jours de vacances. Mais, jusqu'en 1901, il n'avait pas pensé y installer une colonie de vacances. D'ailleurs, en ce temps-là, personne n'avait ce genre d'idée. Et la taille de sa maison ne permettait pas d'aller au-delà des 4 ou 5 ados qu'il y invitait. Les pères Barnabites, qui officiaient au célèbre collège, créé par eux en 1866, avaient acquis des terrains sur ce secteur et y avaient fait construire la chapelle de Montbricon, telle que nous la connaissons encore aujourd'hui. Mais, en 1903, les pères Barnabites sont chassés de France et le liquidateur cherche un repreneur pour la propriété de Montbricon, chapelle et parc compris. Paulin Enfer rachètera l'ensemble et disposera de plus d'espace pour inviter tous ceux qui allaient y venir avant d'effectuer leur service militaire. Il aura l'idée de fonder ce qu'on a appelé le hameau familial de Montbricon.
Et il se situe où, cet hameau de Montbricon?
Exactement à l'endroit où on se trouve.
Ah bon?
Tout à fait.
Ah oui, sacrée coïncidence.
Oui et non, en fait, on va en parler un peu plus loin, mais c'était exactement l'endroit
Donc,
où se situait cet hameau.
Là, on enregistre notre chronique, on est à la place où il y avait cet hameau.
Absolument.
C'est magnifique, ça.
N'est-ce pas? Les cartes postales de l'époque, notamment celles magnifiques, de la collection André Chambaud, qu'il est possible de consulter sur Google ou aux archives municipales, permettent d'apprécier cette belle demeure mansardée, son avant-corps coiffé d'un toit pyramidal, et les jeunes enfants que nous étions dans les années 50 se souviennent certainement des parties de foot sous la surveillance, à défaut d'entraînement, de l'abbé Sampo, sur le petit stade qui faisait partie de la propriété et qui se trouve à l'emplacement actuel des immeubles de la rue Paulin-Enfer. Mais c'est ainsi que, 33 ans avant l'instauration des congés payés, Paulin-Enfer va pouvoir offrir aux familles des anciens du patronage Saint-Joseph, le plus souvent des familles modestes d'ouvriers, des séjours gratuits dans la campagne génoise. Il ouvrira d'ailleurs le hameau par la suite aux familles d'employés de la compagnie d'assurance générale, son employeur faisant partie des bienfaiteurs réguliers de ses œuvres. Il ira jusqu'à négocier avec la compagnie des trains PLM un bénéfice de 50% sur le billet aller-retour parisien en troisième classe. L'instaurateur du billet congé payé de la SNCF en 1937 s'est d'ailleurs peut-être inspiré de cette réalisation. C'est ainsi que pendant près de 20 années, le hameau de Montbricon va constituer un petit paradis champêtre, une source inépuisable de fêtes, de détente, de repas en plein air, de promenades et autres parties de croquets, de balles, etc. On y utilise même un petit canot pour de belles balades sur la Loire. On y a également célébré des mariages, bien sûr, dans la chapelle qui faisait désormais partie de la propriété.
Elle est toujours présente, je crois, cette chapelle. C'est pas celle qui est au rue du parc?
Bien sûr, c'est celle-là.
Ok, donc je me suis pas trompé.
C'est celle-là et il reste du grand parc où il y avait le stade, la partie qu'on appelle le parc de Montbricon.
D'accord, donc l'actuel parc juste à côté. Ok.
Donc chaque matin, les familles trouvent devant leur pavillon les légumes du potager du hameau, le vin qui est produit par les quelques pieds de vigne de Monsieur Enfer, et qui était, je dirais, selon les dires, fort apprécié. Au mois d'août 1908, on inaugure un théâtre de verdure, appelé Théâtre du Soleil et des Fleurs, qui va offrir au hameau une très riche activité culturelle, pour lesquelles, comme à Paris, Paulin Enfer va faire imprimer des programmes de riches enluminures, encadrant des vues de divers bâtiments de la propriété, et je suis sûr que certaines familles giennoises doivent encore en posséder. Comme on le voit, l'œuvre colossale de Paulin Enfer ne s'arrête pas aux portes de Paris, et localement, il sera également un acteur très actif de l'œuvre de la Croix-Saint-Simon, déconcentration de l'œuvre parisienne, installée sur la terre giennoise qu'elle possède et dont les immeubles actuels portent le nom.
C'est bon.
Fondée en 1906 et reconnue d'utilité publique en 1922, la fondation œuvre de la Croix-Saint-Simon, qui existe encore à Paris et qui reste fidèle à l'esprit visionnaire de Marie de Miribel, sa créatrice, n'a cessé d'adapter son action sur Gien dans le secteur de la maison familiale de Montbricon. Ayant remarqué un petit frère et sa jeune sœur, qui erraient sans énergie et surtout sans leurs parents disparus, Paulin Enfer les adoptera et les placera en famille d'accueil. Mais la guerre, les sinistres qu'elle a provoqués, une explosion proche du patronage à Paris, ont sacrément affaibli l'association. Et l'armistice de novembre 1918 va la trouver exsangue. Notre ami Paulin va devoir trouver l'énergie et les nouveaux compagnons pour la faire revivre. Et ce ne sera pas tâche facile, mais il y a quand même réussi. Il ne baisse d'ailleurs pas les bras pour autant, et en plus de cette tâche éprouvante, il va se lancer dans une nouvelle entreprise, la création des jardins ouvriers, qui consistait à exploiter de petits lopins de terre pour permettre aux ouvriers de cultiver un petit jardin en communauté avec des échanges de graines, de plants et de bras pour travailler. Cette association a pris naissance à Paris autour de la poterne des Peupliers, mais se développa aussi à Gien, où elle exista longtemps. Petite gloriole perso, je me souviens que mon grand-père en fut correspondant en son temps. Mais, malgré l'énergie et l'ardeur qu'il déploie, la fatigue due à l'âge, à l'action énergique et incessante depuis 1885, aux disparitions de ses camarades les uns après les autres, se fait sentir et il pense à la succession, à ce que deviendront les biens acquis et développés à Paris comme à Gien, et pour assurer leur pérennité, il va transférer les biens à une association loi 1901 qui devient le patronage et les œuvres ouvrières Saint-Joseph de la Maison Blanche et œuvre de la Mie de Pain. En août 1922, il fête son 69e anniversaire rue Bobillot à Paris et se réjouit de reprendre le train pour Gien, où comme chaque été vont alterner les promenades, les jeux, les repas en plein air dans le parc de Montbricon. Mais le 31 août, dès le repas du soir, il fait un malaise. Ses proches le montent dans la mansarde où il avait installé sa chambre, qu'il avait voulu précaire à l'image des miséreux. Il décédera dans la nuit, le 1er septembre à 2h du matin, comme l'atteste le certificat de décès enregistré à la mairie de Gien. Les Giennois se rendront très nombreux dès la nouvelle connue au hameau. Et beaucoup souhaitent qu'il repose, au cimetière de Gien, mais il avait laissé un testament où il souhaitait reposer aux côtés de sa sœur, sa tante et sa mère au cimetière de Gentilly. Il y eut à Gien, en l'église Saint-Pierre, pleine à craquer, une cérémonie à laquelle assistait une délégation du patronage Saint-Joseph.
Et la maison des associations où nous sommes actuellement a été construite à l'emplacement de l'ancien hameau, dont la rue porte aujourd'hui le nom de Paula Enfer. Merci beaucoup Michel, ça a été encore une superbe chronique. On se dit à très bientôt du coup.
Oh ben bien sûr, hein. Dans le mois qui vient.
Et oui, et toujours des anecdotes aussi croustillantes autour de Gien. À très bientôt chers auditrices et auditeurs de Studio 45.
Et ben voilà,